Je sais pas vous autres, mais moi, la plus jeune chez nous, la préfab.
La préfab, ouais. J'aime tellement ça comme
terme. Elle m'a dit, Yann, toutes les écoles privées sont fermées, les professeurs nous ont avertis, donc je n'ai pas d'école demain. J'ai dit, ouais, mais Megan, tu vas pas à l'école privée. Elle dit, ouais, mais je suis sûr que les professeurs vont prendre les bonnes décisions. Normalement, son cadran, je l'entends, là, 5h45, elle n'a même pas mis son cadran à matin.
Mais là, les écoles sont fermées de toute manière. Là.
À grandeur de Québec?
Il y a quand même... Honnêtement, un matin, j'entendais les gars faire la liste. La liste est très, très longue. Là. De toute manière, vous allez avoir reçu un courriel. Si vous voulez, je vous sortirai la liste tantôt. Chose certaine, si vous voulez y avoir accès, sur la page Facebook de Boulevard, on a carrément un post avec la liste de toutes les écoles qui sont fermées au moment où on se parle. Fait que vous pouvez aller voir directement là si jamais vous vous posez la question. Mais rendu à cette heure-ci, là, le choix est déjà fait. Là. Votre enfant est à l'école ou il l'est pas.
C'est moins 11 degrés sur Québec. La neige parfois forte pour aujourd'hui avec beaucoup de poudrerie, nous dit-on. Accumulation de 20 cm maximum de moins 9. Ce soir, cette nuit, des averses de neige qui devraient cesser vers les alentours de minuit. Donc pour ce soir, entre 2 et 4 cm. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir un genre de 30-40 cm d'amasser depuis hier. On salue les gens qui travaillent dans la merveilleuse industrie de la neige. Lâchez pas. Faites attention à votre dos.
Et nos camionneurs aussi. Hein?
Faites attention au cœur. On perd beaucoup de gars qui pèlent l'hiver.
Hey, des crises de cœur soudaines. C'est capoté, ça.
Demain, vendredi, c'est le retour du soleil avec 40 % de probabilité d'averse de neige et de poudrerie. Ça, ce sera en matinée, nous dit-on. Maximum de moins 9 degrés. Samedi, plein soleil, maximum de moins 8. Et dimanche, 16 février, neige, maximum de moins 10. 418-971-1021, 418-971-1021 par texto.
Il y a des choses à vous mentionner sur la route. Deux accidents qui viennent de surgir sur le réseau routier. Henri IV Nord à la hauteur, là, en fait, juste avant le boulevard Laurier. La voie de droite est bloquée. Le remorquage est en cours du côté de cet accident-là. Sinon, ben, c'est la 40 Est, donc Charest Est à la hauteur d'Henri IV. La voie de droite qui est partiellement entravée. Accident également. Service d'urgence qui viennent tout juste d'arriver. Je regarde sur la map, sinon, Capitale Est à la hauteur de Robert Bourassa, c'est encore au ralenti. L'entrée des ponts, là, dans les deux directions, c'est difficile, évidemment, que la visibilité est très, très mauvaise. Là, je vois déjà des textos qui risquent d'entrer dans les prochaines heures. Vos lumières. On voit pas grand-chose, allumer vos lumières, quoi que ce soit, ça se passe par texto.
Après la pause, Michel Corneau, le vrai détective privé qui est dans la région de Québec depuis des décennies et des décennies. On va parler d'infidélité, on va parler de fraude à l'assurance aussi, parce que j'imagine que ça doit faire partie de son chiffre d'affaires, puis pas à peu près. Il y en a des petits fraudeurs. 10h34, on revient. Comme disait l'autre, touchez pas à ce piton-là.
Ce segment d'émission, présenté par...
10h41, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. J'accompagne jusqu'à 14h. Première partie avec l'excellente Audrey Pinchot et deuxième partie avec l'excellente Pascale Cévé. Tu vois, la même qualificatif pour les deux. Mais pas de jalousie. La Saint-Valentin s'en vient.
Il n'y aura jamais de jalousie.
Vous êtes les deux femmes avec qui je passe le plus de temps en semaine.
Autant dur.
Faut-tu que je vous achète des petits chocolats, quelque chose?
Ah, j'aimerais ça.
Ouais.
S'il te plaît.
Parce que si je commence ça, il y en a d'autres qui vont être jalouses. T'sais, vous savez comment ça fonctionne, les femmes. Là,
oui, mais
ici.
Là, on le dira pas. On n'en parlera pas. Mais oui, mais là, t'ouvres la porte. Si j'ai pas de chocolat demain, je vais être déçue.
Écoute, non, mais tu seras pas tant déçue. Ou peut-être que tu vas être outrée ou peut-être dégoûtée.
Mais non.
Ou peut-être que tu seras agréablement surpris, mais demain, je vais mettre mon costume de Cupidon. Hein?
Littéralement un costume?
Parce que tout le monde qui me connaît, tous ces gens-là savent que c'est moi le vrai Cupidon.
Oui.
Et je vais lire des lettres d'amour à Pascal CV demain parmi tous les auditeurs et auditrices, parce que nous, on fait pas de différence, là. Auditeurs, auditrices, qui vont écrire un message d'amour à Pascal, que ce soit un poème humoristique, sarcastique, un poème très, très profond.
Soyez gentils.
Et crois-moi, depuis un certain temps, j'en reçois des très profonds qui me font très, très rire aussi.
Je voudrais pas être à sa place. Il doit en avoir des déplacés.
Et on a presque 300 $ en prix. Là, Fromagerie Victoria, boutique au 7e ciel. On va vous gâter. Fait que si ça vous tente d'écrire un petit mot pour Pascal d'amour, ben ça va être directement sur mon Messenger. Vous m'écrivez ça à moi personnellement. Je fais des screenshots. Je vais faire le tri demain, puis je vais prendre 5 gars, 5 filles qui vont m'avoir écrit. Puis c'est vous autres qui allez faire face à Pascal avec votre message.
Prends-en le fun, là.
Puis à la fin, on fait gagner un gars et une fille.
J'adore.
D'un bord, il y a 50$ Fromagerie Victoria plus à peu près l'équivalent de 100$ au 7e ciel. Et de l'autre bord, 50$ Fromagerie Victoria plus l'équivalent de 100$ au 7e ciel. Fait que c'est des beaux cadeaux. Merci beaucoup à ces deux-là. D'ailleurs, Fromagerie Victoria qui embarque dans toutes mes niaiseries. Puis au 7e ciel aussi. Mais là, c'est ça. Demain, tu auras la chance de me voir en costume de Cupidon.
Tu vas l'avoir pour l'open mic aussi?
Oui. J'ai poussé l'audace.
Oui, hein? Pas de bobette, hein?
Ben, j'aurais pas le choix.
Pas de couche.
J'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix d'avoir quelque chose parce que là, tu vas tout voir. Ça va être un show d'humour.
Yannick.
Puis je veux pas que ce soit ça. Fait que...
Ben écoute, juste pour ça, t'es pas obligé d'acheter de chocolat. Si je te vois en Cupidon, je pense que je vais être satisfaite.
Ouais. Ah, ouais.
Okay. Je pense que oui.
Parce que, tu sais, ça me dérange pas d'aller chercher bien des affaires à la pharmacie, là. Tu sais, des affaires un peu curieuses, là, pour un homme. Là,
une couche pour adulte, t'es pas rendu là.
C'est ça. Quand ma blonde me demande des affaires, je me dis, hey, je vais vraiment aller chercher ça. Là,
ben oui.
Ça me gêne tout le temps. Mais, tu sais, un costume de Cupidon, ça prend une couche. Puis là, j'ai comme un blocage.
Je comprends. T'as-tu besoin d'aide?
Déjà que la fille à la caisse, elle m'appelle monsieur, là, ça fait mal.
Oui, mais ta blonde est infirmière. Elle peut pas t'en ramener une. Juste une, mettons, lui, que t'achètes un paquet, tu sauras même pas quoi faire
Bonne
avec
question.
Ça.
Ce que je me pose, ce que je me disais aussi, c'est que, mettons que quelqu'un me prend en photo avec une couche, cette photo-là va probablement être utilisée contre moi.
Mais là, c'est ça. Il faut que tu envoies une des femmes de ta vie à l'hôpital. À l'hôpital, oui. À la pharmacie.
J'ai jamais été aussi fort que ça.
Oui, c'est ça. Je rectifie ma phrase. Tu n'as jamais envoyé personne à l'hôpital.
Ça va être peut-être une grosse Saint-Valentin.
Envoie quelqu'un à la pharmacie pour toi. Ça sonne mieux une femme qui va acheter des couches. Il y a l'accouchement, il y a des raisons pour lesquelles on a besoin de couches, nous autres. Fait que t'aurais l'air peut-être un peu moins...
Okay.
J'ai hâte de voir ça.
Prochain sujet, c'est un gars que j'adore. J'ai eu la chance de lui jaser dans mon ancienne vie radio 3 ou 4 fois. Puis à chaque fois qu'il s'est présenté en studio, on a eu bien du fun parce qu'il nous racontait l'histoire de sa vie de détective privé. Mm-hmm. Je me rappelle plus comment il a fait pour s'en aller dans le merveilleux monde du détective privé. Mais c'est un gars qui est dans la région de Québec. Si vous promenez sur la Grande Allée, direction Gaspésie, donc direction Est, là, vers l'île d'Orléans, les chutes Montmorency, à votre droite, à un moment donné, vous allez voir une vitre sur laquelle c'est écrit « Détective privé ». J'étais très jeune, puis cette vitrine-là m'impressionnait en maudit, parce que moi, les détectives privés, je les voyais dans les films, les films d'Hollywood et tout ça, puis là, je savais pas qu'au Québec, on avait des détectives privés, puis Michel Corneau est là depuis des années.
Là, ouais.
Michel, je veux pas te vieillir, mais ça fait combien de temps que t'es détective privé?
Salut, Yannick, salut, Audrey. Depuis 1977.
Depuis 1977, faut dire que t'as commencé très jeune, hein?
J'ai commencé très jeune, je vais prendre, dans 2 ans, ça va faire 50 ans.
Hey, wow! 50 ans!
Privé. C'est incroyable. Puis comment t'en es venu à devenir détective privé, Michel?
Un rêve d'enfant qui s'est réalisé, mais qui a passé d'abord par des études universitaires en droit. Puis en 84, je commençais, en 77, je commençais à travailler comme détective privé pour une agence. À cette époque-là, il fallait travailler 5 ans. Moi, mon but, j'ai une trame d'entrepreneur. Donc, mon but, moi, c'est de partir à travailler à mon compte.
Ouais.
Et à cette époque-là, c'est plus maintenant de même, là. À cette époque-là, il fallait travailler au moins 5 ans pour une agence avant de partir sa propre agence d'investigation.
OK. Quand tu dis que toi, c'était un rêve de petit cul, là, détective privé, t'as-tu connu ça comme moi, les détectives privés, à travers les films qu'on voyait à la télé?
Ben, ma mère qui m'avait donné un petit roman, Tom Sawyer, que je me souviens, qui était comme un enquêteur avec. C'était comme des adolescents, là. Puis, il était avec son ami d'enfance. Et puis, moi, j'ai joué au détective privé. Mon père avait un garage avec un très grand grenier. Puis, on se réunissait avec mes petits copains de l'époque, là, puis on jouait au détective privé. On jouait plus au détective privé qu'aux cow-boys et aux Indiens.
Ben, c'est le fun que tu aies réussi à vivre de ta passion. Je veux dire, c'est le rêve.
Ah oui, puis je suis toujours aussi passionné.
Ouais.
La raison pourquoi que je continue à travailler, pour moi, c'est du bonheur. On est privilégié de faire le travail qu'on a toujours souhaité. Hein. C'est pas tout le monde qui peut réaliser ces rêves-là. Et puis moi, ben, j'en profite à 100%. Puis j'en ai encore pour encore des belles années.
Tu te souviens-tu de tes premiers contrats? C'était-tu aussi palpitant que tu pouvais le penser quand tu as commencé?
À l'époque, il y avait plus de dossiers d'adultère qu'il y en a aujourd'hui.
Ouais.
Puis moi, quand j'ai commencé, c'était avant... Il y avait 2 choses qui ont changé au Québec, puisqu'il y avait la loi de la paillette, que les détectives privés à cette époque-là, leur plus grand contrat, les contrats les plus nombreux, c'était pour les accidents d'automobile au niveau des assurances. Et puis à l'époque, il fallait aussi prouver l'adultère pour demander le divorce. mais je pense que c'est en 84 que les deux lois ont changé en même temps. Puis ça donnait que moi, je partais à mon compte à cette époque-là aussi. Fait que moi, j'ai développé un nouveau marché là, au niveau de la recherche de débiteurs, de biens saisissables. En tout cas, quelque chose de plus administratif là, que sur le terrain, si on veut. Là.
Est-ce que c'est des longues heures? Mais, quand tu es en filature, là, est-ce que c'est des longues heures? Tu dis à ta femme, regarde, j'ai un contrat, je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir, là, mais je vais devoir passer ma vie pendant quelques jours dans ma voiture. Quand tu as commencé, c'était ta business, fait que tu étais le seul employé de ta business, là, ça devait être long parfois.
Moi, je viens d'une famille de chasseurs, hein, OK?
OK.
Puis, moi, je restais avec mon père dans l'échafaud pendant toute une journée à attendre d'avoir l'orignal sortir du bois.
T'as la patience.
Ça fait que, oui, j'ai développé la patience. Et puis, faut dire que dans une voiture, on est plus confortable que dans un échafaud. Hein, vous savez? Mais tout ça pour dire que, oui, c'est des heures. Ça peut, en moyenne, c'est 10 à 12 heures par jour. Hein. On arrive très tôt le matin. Avant, surtout si on travaille sur des employés de la construction, qui partent aussi très tôt. Et puis, on termine souvent vers les 7-8 heures le soir, si on veut couvrir toute la journée.
Est-ce
on peut faire ça pendant 4-5 jours d'affilée.
Ouais. Est-ce que tu as déjà craint pour ta vie? Tu dis que tu es détective privé depuis 1977. Y a-tu déjà un moment donné où tu t'es dit, tabarouette, je l'ai échappé belle?
Bon, il m'est arrivé quelques petits incidents, là, mais c'est comme dans n'importe quel métier. Il faut bien avoir un bon jugement, puis pour faire exprès, pour se mettre dans le trouble, comme on dit. Mais il y a des choses, des fois, il y a certains événements qui étaient inévitables et que j'ai eu une bonne réaction, et puis je m'en ai sorti, là, sans trop d'écueil, là.
Ouais. Donne-moi des exemples, sans me nommer de nom, bien entendu. Donne-moi des exemples de trucs qui te sont arrivés, puis tu t'es dit, tabarouette, je pensais jamais rencontrer ça, ce genre d'événement-là dans ma vie.
Ben, c'est pas aussi extraordinaire qu'on peut voir au cinéma, si on veut, là. Mais je me souviens d'une fois, entre autres, que j'ai été bloqué par 4 voyous. J'étais dans un chemin de campagne, puis les 4 voyous m'ont bloqué la route, puis sont venus vers moi. Et puis il a fallu que je passe à côté dans le fossé. J'avais un 4x4 à l'époque. Puis j'avais un voyou sur le capot de ma voiture, puis il y en avait un autre qui essayait de rentrer par la porte arrière. Donc, j'ai été content de m'en sortir assez rapidement. Je ne sais pas qu'est-ce que... J'aurais probablement passé un mauvais quart d'heure, comme on dit.
Quand tu es en filature là, sur plusieurs jours, je ne sais pas, moi, advenant le cas où c'est un contrat avec une compagnie d'assurance qui ont l'impression que le bénéficiaire ment ou fait des tentatives de fraude, puis toi, tu dois le prendre en photo puis essayer de montrer un dossier. Ça te prend combien de temps avant d'établir la routine de l'individu? Parce que, tu sais, Michel, des fois, je pense à ma vie, là, puis je me dis, tabarouette, à tous les jours, je fais la même chose aux mêmes heures. Je vais tout le temps visiter les mêmes endroits. Si jamais Audrey, là, qui est ma co-animatrice, qui est en face de moi, mettait un contrat sur ma tête, le tueur à gage, ça prendrait comme 2 jours, puis il est sûr et certain exactement de où est-ce que je vais être à la seconde près. La plupart des gens sont comme ça, Michel?
La plupart des gens, puis on l'est tous aussi. Puis pour répondre à ta question, c'est 5 jours. Entre 3 et 5 jours, on peut arriver à prouver, par exemple, qu'un employé qui est en arrêt de travail, qu'on a invalidité, et qui a l'habitude de faire des activités comme, par exemple, aller s'entraîner. Hein? On a pogné quelques-uns dans des salles d'entraînement ou aller donner un coup de main à son beau-frère pour faire un patio ou sur la toiture. Puis quand l'employeur nous engage, il faut qu'il y ait un doute raisonnable aussi. Hein? Il ne peut pas nous dire « je vais à la pêche et puis je vais voir si mon employé me dit la vérité ». Il faut qu'il y ait le doute raisonnable. C'est soit que c'est un résultat d'un examen médical qui est contradictoire à ce que le médecin traitant mentionne de son patient, ou ça peut être une dénonciation anonyme aussi. Mais on va pas à la pêche dans des dossiers de filature d'accident de travail, par exemple. Là. Ça serait pas, de toute manière, on se commencerait au talp, on serait pas, le juge nous demanderait, la première question qu'il poserait, c'est est-ce que vous aviez un doute raisonnable pour mettre monsieur en filature? Et puis là, j'ai eu un gros dossier que l'employeur avait pas pris cette mesure-là. Nous, on l'avait canné d'aplomb, comme on dit, dans 5 jours, l'employé qui disait qu'il avait mal au dos puis qu'il pouvait rien faire, puis qu'on l'a vu passer le souffleur, faire des réparations, en tout cas pendant toute la semaine, là. Puis finalement, que la cause a été rejetée par le juge pour ce motif-là, à cause qu'il n'y avait pas de motif raisonnable.
Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire, question de respecter la vie privée? Elle est où la limite quand on parle d'infiltration?
Bien, il faut dire que dans les dossiers, la majorité des dossiers au privé sont des dossiers, ce qu'on appelait à l'époque les dossiers de CSST, là, ou CNESST maintenant, c'est que l'employeur nous engage pour démontrer que son employé fait des fausses déclarations. Bon, il faut prendre l'employé en filature. Habituellement, ça se fait en équipe de deux enquêteurs pendant 3 à 5 jours. Puis nous, notre limite est assez facile à évaluer, c'est qu'on n'a pas le droit... tout ce qu'on doit filmer, on doit le voir de la rue. Hein?
Donc, autrement dit, ouais, c'est à partir du trottoir.
Ou dans les lieux publics, où on a le droit de fumer dans les centres d'achat, des magasins, dans les quincailleries, par contre, de la rue. Puis par contre, si notre travailleur est dans sa cour arrière, puis est en train de faire des travaux, n'importe quels travaux, qui normalement, il ne pourrait pas faire, et puis qu'on ne peut pas le voir sans passer à travers la headset, ben là, on ne peut pas filmer. On n'a pas le droit, ça ne serait pas accepté de toute façon.
Si on parle d'infidélité, parce que j'imagine qu'il y a une époque où c'était plus courant peut-être de faire appel à un détective privé qu'aujourd'hui, j'imagine que vous avez moins de cas avec l'avènement des réseaux sociaux dans les dernières années. Là.
Je veux préciser une chose, c'est que ça a diminué depuis le début de ma carrière, mais ça n'a jamais représenté plus que 5 à 10 % du chiffre d'affaires du bureau.
Ah oui? Ça me surprend.
Ouais. Puis aujourd'hui aussi, avec les dispositifs de GPS et Apple Tag et compagnie, ben souvent les gens ils réussissent à pincer leur mec ou leur blonde plus facilement, puis ils n'ont pas vraiment besoin d'enquêteurs comme nous, là. Sauf qu'il y en a encore. Puis
Est-ce que c'est plus des femmes que des hommes? Généralement, on dirait qu'on a cette impression-là.
C'est donc bien des questions, Audrey, que tu poses à Michel sur l'infidélité, le coudon. Qu'est-ce que
je suis curieuse, curieuse.
Moi, je dirais que c'est pas mal 50-50.
50-50?
J'ai autant de femmes qui me demandent de suivre le conjoint que l'inverse. Ah oui, ça se voit des deux côtés maintenant.
Puis comment vous vous y prenez quand on parle d'infidélité? C'est la même chose que n'importe quoi? Vous suivez les faits et gestes jusqu'à ce qu'on prenne la personne la main dans le sac?
C'est ça. Ben c'est de la filature. Hein, que ce soit le motif, c'est la technique est toujours la même. Souvent, ce qu'on demande à notre client, c'est de nous cibler des heures et des journées, parce qu'on ne passera pas une semaine à suivre un conjoint. Là, c'est dans ce milieu-là, ça se règle plus rapidement. Ça fait que, comme par exemple, la cliente peut dire, ben moi, mon chum, il va s'entraîner à tous les 3 jours. Puis j'ai vérifié dans son sac de sport, puis son linge est toujours bien propre. Ça fait que le timing est bon sur un événement comme celui-là, comme un autre. Ça fait qu'elle nous demande, bon, je veux que vous suivez mon conjoint s'il va vraiment s'entraîner, puis qu'est-ce qu'il fait par la suite. Puis bon, c'est je vous dirais que 9 fois sur 10, la cliente, on prouve qu'elle est adultère. Puis quand on prouve pas qu'elle est adultère, ce qui est comique des fois, c'est que la cliente est déçue.
Ah, ouais, hein? Ouais. Les femmes, on a un feeling, Michel, par rapport à ça.
Est-ce que tu as déjà fait de l'infiltration dans des entreprises pour prouver qu'un tel ou un tel vol du matériel?
Non. Ben, pour moi personnellement, parce que je suis on a fait à plusieurs reprises de mes enquêteurs qu'on les envoie dans une entreprise. En moyenne, ça dure à peu près 2 à 3 mois là, pour faire un bon travail. Là.
Donc, la personne est embauchée dans l'entreprise avec par l'entremise des patrons, bien entendu, puis elle doit créer contact avec l'individu qu'on soupçonne de voler du stock de l'entreprise ou d'être un peu irresponsable avec les appareils.
Exactement. L'enquêteur est formé pour s'infiltrer dans l'entreprise, puis d'ouvrir l'œil, puis les oreilles aussi. Ça peut être pour des vols de ce qu'on appelle vol par serviteur.
Ouais.
D'entreprise. Ça peut être aussi de la consommation de stupéfiants. Ça, on a fait beaucoup de consommation de stupéfiants. De vente de drogue dans l'entreprise aussi. C'est tous des motifs où intervient. Là.
Michel, tantôt, tu as vendu ton âge. Là. Tu dis que tu es détective privé depuis 1977, mais que tu vis encore de ta passion, même à l'âge actuel, puisque tu ne veux pas arrêter ce métier-là qui est ton rêve d'enfance. C'est quoi les appareils que vous aviez en 1977? Puis c'est quoi les appareils que vous avez aujourd'hui en 2025 pour exercer votre métier de détective privé? Tu dois halluciner des fois quand tu penses à ça.
J'ai vu toute l'évaluation, Moi, quand j'ai commencé à travailler, des secrétaires, on l'appelait les typistes, qui étaient à la machine d'écrire manuelle.
OK.
Avec des carbones, puis du liquid paper pour corriger les fautes.
Oui.
Puis nous, les enquêteurs, on dictait au dictaphone les rapports, puis il y avait une salle des typistes, eux autres qui tapaient tous les rapports. Ensuite de ça, il est venu la machine électrique.
Oui.
Où ça avait une petite fenêtre, là, ce qu'on voyait, ça c'était révolutionnaire, parce que tu pouvais corriger tes fautes au fur et à mesure. Et puis le fax. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de fax. Ça c'était encore plus révolutionnaire, là, qu'envoyer des documents par fax, c'était extraordinaire. Et puis, bon, mais il va aller l'avenue de l'Internet, et puis là, depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté d'évoluer. Là.
Est-ce que les appareils photo, je veux dire, au début, quand tu as commencé, tu devais avoir un appareil photo en 77? Ça aussi, ça a évolué?
Ouais,
aujourd'hui, tu as besoin d'un cellulaire?
Oui, c'était des grosses caméras, puis il fallait... Aujourd'hui, on peut être à une distance assez éloignée pour prendre des images numériques très fiables, très claires. Mais à l'époque, il fallait toujours être plus près des sujets qu'on filmait, parce que les zooms n'étaient pas si puissants, là.
Quand tu... c'est des questions d'auditeurs, Michel, qui arrivent. Là, by the way, on est avec le détective privé Michel Corneau, qui est sur la Grande Allée depuis des décennies. Il exerce son métier de détective privé. Si tu as des questions pour lui, 418-971-1021, 418-971-1021. Est-ce que, quand tu te fais griller là, durant une filature, est-ce que tu dois donner le contrat à quelqu'un d'autre ou tu changes tout simplement de voiture ou tu mets une fausse moustache ou tu te coupes les cheveux? Comment ça fonctionne?
Non, les jeux. Bon.
On écoute beaucoup de films, hein, Michel.
Je vais changer ton mode de cuisson. Nous, on ne dit pas griller, mais on dit brûler.
Oui.
Fait que lorsqu'on se brûle, moi, je te dirais, dans ma carrière, je me suis brûlé peut-être une dizaine de fois. C'est pas beaucoup, là, pour 45 ans de filature, là. Mais quand ça arrive... On se brûle pas vraiment à 100%. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que le sujet fait une conduite qui est pas logique, des déplacements qui sont pas, comme on dit, qui fait une boîte là, pour voir s'il est en filature ou quoi.
Ouais.
Et à ce moment-là, ben on cancelle tout simplement pour on prend plus tard avec d'autres véhicules. Là. C'est comme ça que c'est la technique qu'on leur fait.
Mais est-ce que vous vous faites confronter dans ce temps-là? T'sais, moi, s'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de me poser de l'autre bord de la rue, ça se peut que je fasse comme elle. Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas compris?
On quitte avant qu'il y ait une confrontation. Là.
Comment?
On quitte avant qu'il y ait une confrontation. Si okay. On sent que ça commence à être trop chaud, puis on n'est pas en une bonne position, on n'est pas un bon roupie, on va quitter et on va reprendre plus tard.
Ouais. Ben, il y a eu une histoire dans l'actualité qui touchait des gens qui étaient très connus. Là. C'était un riche millionnaire avec une animatrice de télé qui s'était séparée. Puis la dame prenait l'avion et il y a un individu qui la suivait. Et elle s'est aperçue qu'il y a un individu qui la suivait. Puis elle l'a tout de suite confronté tout en le filmant. Puis après ça, elle s'était plaint dans les médias qu'elle s'était fait suivre par un détective privé. Puis effectivement, le détective privé n'a absolument rien dit. Il a juste quitté l'endroit, tout simplement.
Mais on a-tu des recours, je vais dire ça comme ça, Michel, mais on a-tu des recours comme citoyen si on se rend compte qu'il y a un détective privé qui est après nous? C'est quoi? On appelle la police? C'est légal, j'imagine, anyway, là?
Tout le monde a des recours, mais des recours aux civils si par exemple quelqu'un s'est senti suivi puis ça a causé des dommages, bien, c'est sûr que la personne puis qu'il connaît l'agence qui a fait la filature, tout citoyen peut entamer des poursuites civiles. Là. Mais ça ne veut pas dire qu'en bout de course, que le client va avoir raison. Si l'agence avait un motif avait un mandataire avec un motif raisonnable de faire de la filature.
J'ai une question par rapport au côté monétaire. Est-ce que les prix, quand on engage un détective privé, dépendent de la mission ou c'est à peu près toujours le même prix? C'est-tu très élevé?
Non, non. Ben, il y a des prix là, au niveau de la filature et au niveau de l'enquête. Là, ça va dans 75 et 100 $ de l'heure environ. Là.
Okay. OK, quand même, c'est très bon. Est-ce que vous avez à peu près les mêmes droits que la police quand vous faites une filature ou quand vous faites de la surveillance? Puis je vais t'expliquer ma question. Vous n'avez pas les mêmes droits, c'est ça. Il y a un individu à Québec qui est ciblé actuellement, puis on ne sait pas trop si c'est les policiers qui le ciblent ou si c'est, mettons, les membres de gangs de rue. Je vais rester assez vague, là. Mais je parlais avec son voisin, c'est... quand est-ce qu'on était à l'atelier? C'était avant hier, hein?
Oui, mardi.
Mardi, je parlais avec le voisin de cet individu-là, puis il disait, ben moi, au-dessus de ma maison, il y a constamment des drones qui passent, là. Est-ce que les détectives privés peuvent maintenant utiliser des drones? Parce que tu nous as dit tout à l'heure, nous, on peut filmer, mais du trottoir. On peut filmer dans les endroits du trottoir à la maison. On peut filmer dans des endroits publics. Est-ce qu'avec l'arrivée des drones, il y a comme une nouvelle législation pour vous autres? Comment ça fonctionne?
Bien, la loi s'applique de la même façon que tu filmes par un drone. Une situation que tu ne peux pas voir de la rue, bien, c'est sûr que ce que tu vas avoir filmé ne sera pas accepté, là. Par contre, d'un drone, ça peut permettre d'identifier le lieu de la surveillance, de vérifier si le sujet est bien chez lui. Ça peut nous apporter des informations. Mais je pense, d'après moi, c'est pas une pratique courante dans le domaine de l'utilisation de ces drones-là, parce que au niveau technique, c'est pas si efficace que ça là, pour nous, là. En tout cas, moi, j'ai aucun collègue qui me dit qu'il travaille avec des drones, là. Il y en a l'idée actuellement.
Il y a des textos qui entrent. Il y a quelqu'un qui nous demande « Quel a été ton cas, ta filature la plus étrange? »
sa propre femme.
Non, ça me vient pas l'idée, la plus étrange, là.
Non.
Non. On cherche le sensationnalisme, mais là, j'en ai pas à vous chercher.
Non. En 77, là, quand tu disais aux gens autour de toi, je sais pas, quand tu allais prendre un verre d'un bar puis les gens te disaient « qu'est-ce que tu fais dans la vie, Michel? » Est-ce que tu le disais? Est-ce que tu te gardais une gêne? Ou est-ce que tu restais discret?
On en parle très, très rarement de ce que l'on fait. Juste pour une raison, c'est pas pour se protéger derrière une autre profession, c'est pour éviter le nombre de questions qu'on va avoir suite à ça, parce que ça intrigue la majorité des gens. Alors, moi, personnellement, ce que je dis, moi, je dis que c'est vrai aussi, je suis propriétaire immobilier, puis ça clôt assez rapidement la discussion, parce qu'en disant que tu es détective privé, ben là, c'est sûr que tu en as pour une heure.
Ouais. Ça t'a-tu déjà nuit, ça, dans ta vie personnelle, d'avoir une vie professionnelle comme ça?
Non, pas du tout.
Non.
Au contraire. Ouais. Ça met du piquant.
Ouais, ça met du piquant. C'est parce que je me disais, tu sais, mettons que en 77, tu étais célibataire, tu arrivais dans un bar, une belle brune aux yeux clairs, là, qui te dit « Qu'est-ce que tu fais, Michel, comme job? » Détective privé, ça se disait bien, là. Tu dis « Michel Corneau. » Détective privé.
J'étais étudiant en droit à cette époque-là, fait que ça pognait aussi bien.
Voilà.
Il y a une autre question. Les gens sont curieux, évidemment, tu comprendras, Michel. Là. Il y a une autre question qui entre. Est-ce que c'est déjà arrivé que l'homme et la femme font appel à vos services pour enquêter l'un sur l'autre?
Oui.
Puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais?
En plus, la hymne, monsieur. Une chance que j'avais une porte de sortie en arrière. J'avais le client dans mon bureau, puis j'avais sa femme qui attendait à la réception pour me rencontrer.
Oh, boy! Visiblement, il se faisait pas confiance pantoute, hein?
Non, ça allait pas bien.
Hey, Michel Corneau, ton bureau, es-tu toujours sur la Grande Allée?
Oui, toujours, au même endroit.
Ouais, c'est toi qui as la plus belle vitrine sur Grande Allée, soit dit en passant. Depuis que je suis petit cul que je regarde cette vitrine-là, puis ça m'a toujours fait rêver. Mais quand je t'ai vu en personne, ça me faisait moins rêver, là, mais parce que tu n'avais pas ton chapeau, puis ta moustache, puis ton paletot. Là, mais,
mais, à ce niveau-là, j'avais brisé ton rêve.
Ben oui, c'est ça, le costume.
C'est ça.
Exact. Michel Corneau, un gros merci. Puis pour les gens qui veulent avoir accès à tes services de détective privé, ben, ils peuvent communiquer avec toi. Simplement aller sur Google, c'est très facile. Vous tapez Michel Corneau, détective privé, vous allez avoir toutes les informations.
Hey, merci beaucoup à vous deux.
Merci Michel.
Bonne journée.
Bye-bye. Quand on parle d'un passionné, puis de gens qui gagnent leur vie avec leur passion, c'est ça.
Faut des guts quand ils pensent de dire « Je vais faire mon droit, mais moi, je rêve d'être détective privé, fait que je lance ma business. » Tu sais, au début, là...
Il était ticu.
C'est capoté, là.
Il était ticu, il voulait faire ça. Il jouait pas à police-voleur, il jouait au détective privé.
Puis t'as pas d'expérience, puis faut que les gens aient confiance en toi au début quand tu y penses, là.
Ouais, puis c'était très rudimentaire au début, là, les appareils qu'il pouvait avoir, contrairement aujourd'hui où, bon, on n'est pas embarqué dans ce dossier-là avec Michel, mais tu sais, les micros, les caméras qui se sont améliorées, les objectifs, tu peux capter les choses de très, très loin.
Les réseaux sociaux doivent aider énormément aussi, là.
Ouais.
C'est dans le sens que...
Ben toi, c'est ce que tu fais, là?
Ben, honnêtement, moi, tu me laisses 24 heures pour trouver du monde ou des...
Petit
ça sera pas long, là.
Petit chum Instagram. Petit chum, j'ai des questions à te poser. C'est qui, elle?
Je suis pas de même, par exemple.
Sur tes 48 photos, elle ne likait 3!
Ah non, mais j'avoue que peut-être que c'est par la job qu'on fait aussi. J'ai quand même une partie de job qui est recherchiste, mais c'est quelque chose que je mange. Quand il y a le défi, moi, de trouver quelqu'un que je sens qui est introuvable, je trouve ça le fun parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de trouver quelqu'un via les différentes plateformes, que ce soit LinkedIn, Facebook. Tu tapes un nom, tu trouves assez rapidement, là. Mais il y a un challenge à essayer de trouver quelqu'un qui est peut-être un peu plus mystérieux. Fait que je comprends à quel point il peut encore triper sur sa job aujourd'hui.
Ouais, moi, j'ai une collègue que j'avais dans le temps qui travaille maintenant avec nous dans la grande famille de Leclerc Communication. Là. À un moment donné, j'y ai donné une tâche impossible. Okay? J'y ai parlé de quelqu'une, puis en moins de 2-3 heures, elle a réussi à trouver la personne. Mais tu sais quoi? J'avais pas de nom. J'avais juste une description. Cheveux blonds, yeux bruns, mettons 5 et 10. Là. Puis en moins de... En moins de temps que pour préparer une lasagne, là, elle a trouvé l'individu.
Mais des fois, ça te prend juste une affaire du genre « je sais qu'elle connaît telle personne ».
Ben, elle, c'était ça.
Fait que là, à partir de ce moment-là, OK, ben là, je veux dire, c'est facile de fouiller, chercher des photos. Puis là, souvent, tu vas essayer de chercher des tags ou les gens qui ont aimé un post. Ou, hey, je te dis, là, ça, honnêtement, là... Puis ça doit faciliter leur travail aux détectives privés aujourd'hui d'avoir accès à cette banque-là parce que personne fait attention à ce qu'il met sur les réseaux sociaux puis personne se protège tant que ça des internets non plus, on va se le dire. Là.
Ouais.
J'en doute pas en tout.
Mais tu pars pas une relation de couple dans l'espoir de la tromper. Là.
Non, non.
C'est ça,
c'est triste en motadine. Là. Regardez vos affaires. Là.
Mais le couple qui ont été
sur l'autre.
Michel Corneau, détective privé, est-ce que tu peux suivre ma femme? Puis l'autre bord, c'était « Bonjour, Michel Corneau, détective privé, oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux suivre mon mari? »
Moi, je leur dirais « Je perdrai pas mon temps avec ça, là. Séparez-vous, vous vous faites pas confiance.
» Alors, puis Michel, il est bien simple, là. C'est un gars super sweet. Moi, je l'avais rencontré en personne, là, sur Grande Allée. J'adore l'individu.
Non, ben écoute, en plus, il a l'air relax, là. Tu vois que ça fit dans le personnage.
Oh, oui, puis tu sais, quand il dit « situation dangereuse », d'après moi, toi, t'aurais jugé comme 848 situations dangereuses. Lui, ça a été... Ouais, c'est parce que j'ai failli salir mon char dans un champ. J'essayais d'éviter 4 bandits.
Mon hood, là.
11h11, on fait une courte pause. Si vous avez des questions pour nous, il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci. 88 971 101, c'est par texto. On vient. Samedi et dimanche, boulevard.